Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen & Co, Afen & Co, la collégiale de la FEN. On en est au numéro 369. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui avait eu une certaine notoriété avec son président Serge Ravet lorsqu'on avait lancé avec lui l'association Reconnaître qui parlait des open badges. À l'époque, c'était un ovni, un objet virtuel non identifié. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus dans la réalité des responsables de formation. Ils en parlent, ils se disent comment ça marche, comment est-ce que je peux fonctionner. C'est un outil qui interpelle et qui intéresse très fortement les entreprises. Et pour ça, on a Philippe Petitqueux, qui est secrétaire général de Reconnaître et qui va pouvoir nous parler de l'association. Bonjour, bonjour Philippe.
Bonjour Stéphane.
Philippe Petitqueux, alors c'est quoi Reconnaître?
Eh bien, Reconnaître, c'est une association, loi 1901, qu'on a créée avec mon président Serge Ravet, que tu as cité juste avant, en 2018. On l'a créée parce que quand les badges sont arrivés en France vers 2015, ils sont arrivés par la Normandie et à travers une initiative qu'on a prise. L'enseignement agricole et ses partenaires sur le territoire en 2016, à travers le lancement d'un collectif qu'on a appelé Badgeons la Normandie. C'était d'ailleurs une idée de Serge. C'est souvent une idée de Serge, hein, il faut pas trop le dire,
Il
parce
faut
qu'après,
rendre à
il va avoir la
César
grosse
ce qui est.
tête. C'est de dire, il ne faut pas que chacun badge dans son coin. On parle de reconnaissance, il faut penser écosystème de reconnaissance. Si vous travaillez sur l'employabilité, l'insertion professionnelle, etc. Il faut que ces badges puissent être reconnus, hein, dans leur contexte au sein de cet écosystème qui est à construire. Et donc, il nous a dit, faut penser collectif. Donc, on a lancé Badgeons la Normandie, un ensemble d'acteurs en insertion, de la formation, de l'éducation, éducation populaire, les collectivités aussi qui nous ont rejoints. Et puis, il y a eu des petits frères qui se sont créés rapidement, Badgeons les Pays de la Loire, Badgeons le Centre-Val de Loire, les Hauts-de-France. Et arrivé en 2017-2018, on s'est dit qu'il faudrait qu'on puisse fédérer ces initiatives. Et on a créé l'association Reconnaître en 2018, aidée par cela, à l'époque, c'était le Centre de recherche interdisciplinaire, qui est aujourd'hui le Learning Planet Institute, qui nous ont accompagnés pour incuber voilà, cette association. On a écrit les statuts. Et donc, cette
Une très belle
association, elle vit.
institution, une très belle institution qu'on a eu le plaisir d'entendre avec des positionnements vraiment très intéressants. J'invite tout le monde à réécouter la responsable de la formation professionnelle. Très, très intéressant.
Tout à fait. Et donc, on a écrit nos statuts et les objets de l'association, qui est vraiment de fédérer ces collectifs de territoire, d'accompagner les nouveaux collectifs qui se créent. Donc, au début, c'était très régional. On a beaucoup de badgeons, les régions. Puis après, il y a eu des badgeons, les départements, et même des badgeons, des métropoles. On n'avait pas moins de 8 collectifs qui se sont lancés en
Et alors
2025,
aujourd'hui,
par exemple.
dans l'association, est-ce que d'abord les entreprises ont le droit d'adhérer? Est-ce que c'est
Alors,
intéressant?
oui. Tout le monde a le droit d'adhérer. Alors, tu fais bien de citer les entreprises parce que c'est un peu notre comment dire, axe de développement aujourd'hui, c'est de toucher les entreprises. Donc, c'est justement la pertinence de ces collectifs qui sont ancrés dans leur territoire. Hein. On a des collectifs comme Badgeons le 61, par exemple. Le fait d'être ancré sur son territoire, ça permet de toucher plus facilement le tissu économique et social, si on peut travailler sur des bassins d'emploi, etc. Et donc faire émerger comment dire, des besoins en compétences ou des pratiques émergentes. Et lorsque les outils de reconnaissance formelle ne sont pas là, mais on peut utiliser les badges pour documenter ces nouvelles pratiques. Et puis, on est donc ouvert, voilà,
Donc,
à
combien ça
toutes les
coûte pour une
entreprises.
entreprise qui vient?
Alors, nous, on a des cotisations relativement modestes. Hein, ça commence à 10 euros pour les individuels, à 100 euros pour les organisations.
Bien.
Donc,
Et alors,
voilà, pour
qu'est-ce
ça.
qu'ils ont droit à des meet-up
Alors, déjà, ça va être accéder aux ressources qu'on a créées, parce que tu l'as dit, hein, c'était un ovni, les Open Badges. Ça reste encore un ovni pour beaucoup. Ça fait poser énormément de questions, ces artefacts numériques. Donc, on a depuis travaillé à la création de ressources qu'on partage aux nouveaux arrivants, de méthodes aussi, comment est-ce que je peux développer mon projet de reconnaissance. Mettre en relation aussi ceux qui ont déjà testé hein, ou créé des badges numériques dans n'importe quel domaine. C'est aussi le partage de badges. Ça, c'est super. C'est que quand il y a un badge qui a été créé, qui marche quelque part, on peut se partager. On peut l'adapter ensuite. C'est rencontrer des experts, des praticiennes, voilà, des personnes qui ont déjà de l'expérience. C'est pouvoir participer aussi à nos événements qu'on organise, comme le Forum francophone des Open Badges ou la Conférence internationale EPIC.
Effectivement, tu parles de la dimension régionale, mais il y a aussi une dimension internationale.
Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai connu les badges grâce à Serge Ravet et les conférences qu'il organise depuis un certain nombre de temps, depuis 2003. Mais moi, je suis arrivé en 2016 à Bologne, à cette conférence internationale EPIC, où j'ai découvert voilà, une communauté vraiment de passionnés, hein, des praticiens de la formation, de l'éducation, des technologies, qui travaillaient avant que les Open Badges arrivent sur les questions de portfolio, de développement professionnel continu, etc. Et voilà, quand les badges sont arrivés, bah, c'était la thématique centrale de Bologne en 2016, Bologne en 2017. Et ce sont les Français qui ont pris ces initiatives, hein, ces collectifs badgeants dont je t'ai parlé juste avant, c'est vraiment une spécificité française. Alors que dans les autres pays, on a une approche plutôt micro-certification, plutôt portée par le monde académique. Nous, cette culture, tu vois, un peu de l'éducation populaire, de la reconnaissance, on l'avait déjà, et donc les badges sont venus outiller un peu cette culture qu'on avait, non sans difficulté, parce que ça, on va pouvoir développer après, c'est pas forcément évident, mais en tout cas, cette communauté internationale, elle existe, et elle a souscrit à cette philosophie qu'on a développée, enfin, que Serge Ravet a lancée justement à Bologne en 2016, qu'on appelle la reconnaissance ouverte. Hein, cette idée d'arrêter de laisser le monopole de la reconnaissance uniquement aux institutions, mais on peut, avec les badges, justement, impliquer les personnes, les collectifs, les territoires dans leur propre reconnaissance.
Alors, est-ce que finalement les badges, c'est pas une façon de dire les diplômes, le RNCP, tout ça, c'est des systèmes trop lourds, le monde évolue trop vite, et donc finalement il faut quelque chose de plus agile. Est-ce que c'est pas une critique des diplômes?
C'est pas que c'est trop lourd, même si ça peut l'être, c'est surtout que c'est plus suffisant. Voilà. C'est plus suffisant pour refléter la diversité de l'expérience qu'on développe de plus en plus rapidement mais grâce au numérique. Ça, c'est pas nouveau. Mais voilà, ça vient reconnaître qu'une petite partie d'un parcours. Et en effet, lorsque on veut se faire reconnaître une expérience, on peut passer à travers une VAE, par exemple. La VAE, bah, va nous obliger à cibler un diplôme en particulier. Et là, même là, ça ne va pas être forcément suffisant. Donc, nous, on milite pour une reconnaissance en termes de mise en visibilité déjà de son expérience, de valorisation, et puis dans une démarche de continu. Et de faire la différence entre la reconnaissance et puis la validation. Nous, on a plutôt cette culture de dire qu'il n'y a que la validation. Tant que ce n'est pas validé par une certification, ça n'a pas de valeur. C'est d'ailleurs les premières questions qu'on avait, hein, c'était, mais ça a quelle valeur un badge, etc. Donc, on essaye de passer de cette culture de la validation unique à une culture de reconnaissance continue avec un autre élément important, c'est la participation, voilà, des personnes à leur propre reconnaissance. Et ça, ce n'est pas évident, hein, puisqu'on est quand même assez formaté par notre système scolaire. Donc,
Autrement
oui.
dit, si je comprends bien ce que tu dis, un individu, donc pas une entreprise, pas une structure, peut très bien s'auto-générer un badge.
Et oui,
Et c'est ça qui est génial.
c'est le message qu'on essaye de faire passer rapidement, hein, c'est de ne pas confondre le support avec ce qu'il représente. Le badge numérique, c'est un support pour rendre visible une reconnaissance, ce n'est pas la reconnaissance elle-même, ce n'est pas un micro-diplôme, ce n'est pas non plus un diplôme pour ceux qui n'en ont pas. C'est un support numérique qui permet de rendre visible une reconnaissance, qu'elle soit formelle, non formelle, semi-formelle, comme dirait Serge, ou informelle. Et sa valeur est ensuite, dépend du contexte, elle peut être construite, hein, c'est-à-dire qu'un badge peut être un point de départ. Si par exemple je veux documenter une expérience professionnelle ou un stage ou une démarche que j'ai entamée, je peux avoir un badge comme support qui va être un peu comme fonctionner comme un portfolio. un micro-portfolio, et donc je peux documenter ce badge, et puis je peux recevoir des reconnaissances, ce qu'on appelle des endossements dans le vocabulaire des badges de pairs, de tuteurs, etc., qui vont pouvoir apporter du crédit à mon badge. En effet, donc techniquement, n'importe qui peut créer un badge. Mais voilà, ce badge, il a au départ une valeur proche de zéro, mais elle reste à construire. Mais tu vois tout de suite qu'on est dans une, on retourne la démarche. Je n'attends pas la reconnaissance à la fin d'un processus comme c'est le cas depuis que je suis à l'école. Voilà, je suis des cours, je vais être évalué, puis après j'ai une note. Là, je peux être reconnu pour mon engagement dans une démarche de professionnalisation, par exemple. Et après, ben, ce badge, il représente cette reconnaissance. Alors, si je ne l'ai pas documenté, si personne ne me l'a recommandé, ben, il va avoir très peu de valeur. Donc, il y a aussi cette idée que Serge développe que ce badge, il
Mais
est circulé.
il sera quand même communiqué, puisqu'on peut l'afficher sur LinkedIn. Et donc, ça veut dire qu'il a une valeur, même s'il n'y a que moi qui l'ai fait, ce qui, bien sûr, est mieux d'avoir un écosystème et de s'imprimer socialement. Mais ça veut dire que ça aura une valeur, puisque je le communique.
Absolument, il y a plein d'autres comment dire, fonctionnalités très intéressantes dans les badges. La première, peut-être, c'est la transparence. C'est la transparence. Un badge, si, peut-être que nos auditeurs n'en ont jamais vu, hein, ce n'est pas seulement l'image, mais c'est l'image, c'est ce qui permet d'encapsuler les métadonnées donc relatives à ce que reconnaît le badge. On va trouver l'émetteur du badge qui peut être moi ou une université ou une entreprise. Et ça va être à qui ça a été émis, le nom du badge, la description, les critères, qu'est-ce que j'ai dû faire pour l'obtenir. Comme je l'ai dit, de la documentation ou des preuves, des endossements, donc même une géolocalisation, c'est une information très riche, hein, qui circule avec le badge. Il y a donc cette transparence. Voilà. Si le badge est bien documenté, etc., on n'est pas dans, on est dans, voilà, dans un objet qui permet vraiment de communiquer beaucoup d'informations. Deuxièmement, tu m'as dit qu'on pouvait le partager. Bah oui, c'est un objet numérique qui voyage bien sur les réseaux. On peut le retrouver sur LinkedIn, sur mon CV 3.0, un CV qui va être dynamique, évolutif. Donc, c'est aussi un objet low-tech, hein, c'est très léger, hein, c'est de l'open source, il faut le rappeler aussi Open Badge. On en est aujourd'hui à la version 3.0, qui va permettre à des badges de se retrouver dans ce qu'on appelle des wallets. C'est vraiment ces espèces de passeports sécurisés qui permettent de rendre vérifiables toutes sortes de revendications ou de crédits, credentials, comme disent les anglophones, que ce soit un permis de conduire ou alors l'achèvement d'une formation, etc.
Alors concrètement, parce que tu disais, il y a beaucoup qui a entendu parler, mais si moi je suis un responsable de formation ou même un organisme de formation qui veut créer son propre badge, comment je fais? Il y a un site à badge?
Alors, les organismes de formation, et puis en général, toutes les organisations qui sont dans notre domaine, hein, formation professionnelle, éducation, insertion, etc., sont évidemment ceux qui sont le plus à même à utiliser les badges dans un premier temps. Les premiers usages qu'on a découverts, c'est intéressant, c'est autour de ce qu'on appelle les soft skills ou les compétences transversales humaines ou habiletés socio-cognitives, si on veut parler le langage de l'AFNOR. Des objets assez flous, hein, qui sont pertinents, pour lesquels les badges sont pertinents pour en tout cas les identifier, les rendre visibles chez soi et pouvoir documenter leur développement. On a aussi beaucoup d'organismes de formation qui vont utiliser les badges pour attester du suivi des formations, hein, des formations qualifiantes par exemple. Ça, c'est quand même des usages, c'est vrai, qui sont assez simples. Il y a des badges aussi autour des rôles. On parle peu de ces usages, mais ils sont intéressants pour structurer une communauté de pratique autour du rôle de facilitateur, d'ambassadeur, explorateur, praticien. Là, récemment, bientôt, pardon, je vais travailler avec un projet autour de la gestion durable des haies en Normandie, plus
Des...
largement
Ah
les
oui.
haies HAIES. Oui, tu
Oui,
sais qu'on les a abattues à un certain moment.
oui, absolument.
Eh ben là, on est en train de les faire repousser et parce que voilà, on peut les valoriser pour la
Bien sûr.
biodiversité, pour le bois, etc., les problèmes climatiques, les glissements de terrain, etc. Et donc, voilà, c'est un projet qui va impliquer des établissements, des lycées agricoles, des professionnels, donc des agriculteurs, des techniciens, des salariés agricoles. Et donc, les badges, ça va permettre de rendre visibles non seulement les contenus d'apprentissage, ce que je peux apprendre, donc, autant des savoir-faire, des connaissances, mais aussi des rôles, voilà, qu'on peut avoir. Et ces badges permettent de relier aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on peut dire qui est intéressant, c'est que lorsque je publie mon badge, que je le partage, tous ceux qui ont le même badge, eh bien, vont apparaître quand je clique sur le badge. Donc, je peux rendre visible une communauté
Très bien.
autour du badge. C'est cette idée qu'il faut aller plus loin que la simple attestation au format numérique.
Mais
Donc, pour
alors,
répondre à ta question,
concrètement, voilà,
oui,
c'est ça.
concrètement, quand je veux m'y mettre, alors, ben, il y a plus d'une cinquantaine de plateformes aujourd'hui de badges numériques qui existent. Beaucoup sont anglophones, beaucoup sont assez tournés vers la micro-certification, c'est-à-dire qu'il y a assez peu d'usages qui sont destinés, on va dire, à l'individu qui voudrait créer son propre badge, le documenter, etc. On est plus sur quelque chose de descendant, mais de plus en plus, on a des plateformes qui permettent, comme c'était le cas au départ, la première plateforme qui a été créée par Mozilla, qui était, et j'ai oublié le nom aujourd'hui, ça fait un bout de temps, Open Badge, le sac à badge, ils appelaient ça Backpack. De Mozilla, voilà, ça pouvait
Ils
permettre
reprennent le
d'apprendre.
terme québécois. C'est
Absolument,
les
sac
sacs à
à
badge, c'est les
badge.
Québécois qui disent ça. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai
Sac à
découvert.
badge, absolument,
Exactement, c'est ça.
absolument. Donc, je ne sais pas, on ne va pas citer peut-être de plateforme en particulier, mais il y a des plateformes aujourd'hui qui fonctionnent mieux que d'autres dans la sphère francophone, parce qu'ils sont en partie francophones. Ils ont aussi un service qui permet d'utiliser les badges, hein, parce qu'il y a beaucoup de plateformes qui permettent d'émettre des badges, mais après, moi, en tant qu'utilisateur, qu'est-ce que je fais de mon badge? Comment est-ce que
C'est-à-dire.
je peux le modifier, le
Ah,
partager, le documenter, demander des endossements? Voilà, toutes les plateformes n'ont pas mis ça en place. Il y a aussi l'éducation nationale, la direction du numérique pour l'éducation qui va se lancer dans la rédaction d'un cahier des charges d'un commun numérique. En tout cas, c'est une discussion en cours. C'est eux qui vont l'annoncer dans quelques temps. On sent qu'il y a un besoin aujourd'hui d'avoir un service numérique public, un service public numérique autour du sujet. En tout cas, techniquement, voilà, c'est de
Ça
l'open source, hein.
coûte combien de faire un badge?
Ah, mais ça va de. Si on prend une plateforme LMS open source, très connu, très utilisé, ça coûte quasiment zéro, sauf le prix de l'installation, etc. C'est intégré. On peut créer un badge à la fin d'un cours ou suite à l'achèvement de plusieurs activités. Donc, ça coûte très peu, hein. Et en plus, comme j'ai dit, c'est low tech, c'est très peu gourmand en énergie. Et ça peut aller jusqu'à des plateformes qui proposent toutes sortes de services qui vont avec. Ça peut aller jusqu'à 50 euros pour un badge sur certaines plateformes. Mais voilà, il y a un modèle économique, chacun a son modèle économique, mais à la base, c'est de l'open source. Donc, on peut tout à fait commencer les badges avec une première plateforme open source pas trop chère. Voilà.
Donc, ça veut dire que c'est accessible, à la limite, autant aller regarder ces plateformes pour s'essayer et pour après pouvoir l'industrialiser dans les entreprises. Il y a beaucoup de responsables de formation qui disent, finalement, quand on a avec les partenaires sociaux, c'est toujours un peu compliqué ces secteurs professionnels, alors que si là, on met une reconnaissance, une petite reconnaissance, bah, ça valorise ceux qui sont dans cette micro-reconnaissance. Et donc finalement, petit à petit, de micro-reconnaissance en micro-reconnaissance, on pourra faire quelque chose ou rien. Mais en tout cas, ça montre socialement qu'on market l'offre.
Oui, il y a plein de choses à faire avec les badges. Alors, au niveau de l'entreprise, au niveau de la reconnaissance en entreprise, c'est pas si facile que ça, hein, parce que il y a déjà un dialogue social, hein, qui existe au sein de l'entreprise. Quand on parle reconnaissance, on sait bien qu'il faut faire attention en arrivant avec les badges, hein, pour pas arriver
Bien sûr.
à des badges du meilleur employé du mois, ou alors à venir brouiller les reconnaissances existantes. On n'a pas forcément que des bons retours de la part, par exemple, des syndicats. Ce n'est pas une question facile. C'est pour ça que Serge Ravet, encore lui, dit qu'il ne faut pas entrer par les badges, il faut entrer d'abord par la reconnaissance. On travaille d'ailleurs avec l'AFNOR sur comment dire, un guide autour de la mise en œuvre d'un dispositif ouvert de reconnaissance, où l'entrée, c'est vraiment d'abord la reconnaissance. C'est quoi nos pratiques de reconnaissance existantes? Est-ce qu'on prend bien en compte toutes les besoins de reconnaissance qui sont exprimés? Quelles sont les modalités de ces reconnaissances? Qui participe à ces reconnaissances? Qui a son mot à dire? Quels sont les artefacts? Qu'est-ce que ça produit? Parce que dans certains cas, on peut se prendre le badge dans la figure, hein, si c'est plutôt une
Bien sûr.
augmentation qu'on demandait. Et puis, ça reste un sujet où il faut avoir beaucoup de pédagogie, hein. Donc, le badge, d'abord l'entrée reconnaissance, et après, on se pose la question en quoi le support badge va permettre d'ajouter quelque chose à cette reconnaissance, ben, puisque le fait qu'elle puisse circuler plus facilement, qu'on puisse documenter son évolution. Donc, il faut bien que ça soit dans un cadre partagé dans l'entreprise qui ait cette réflexion. On a d'ailleurs, je crois, une table ronde à la conférence EPIC sur cette question, comment la reconnaissance ouverte, les badges numériques pourraient être un support du dialogue social.
C'est là où c'est intéressant le dialogue social. Laurent Alexandre vient de sortir un livre avec Olivier Babeau, Arrêtons les diplômes, parce qu'en fait, on forme à des compétences et des connaissances qui n'existent plus, mais c'est la reconnaissance elle-même, alors que justement, il prône les badges ou des équivalents pour dire, bah, de toute façon, il faut inventer des choses. Donc, il faut bien des marqueurs sociaux pour distinguer les gens. Et donc, et c'est cette reconnaissance-là qui est intéressante, de ne pas se laisser prendre dans des institutions du XXe siècle. Toi, tu
Voilà,
penses quoi? Il a tort ou raison?
je pense que c'est le constat qu'on fait tous, c'est qu'il faut qu'on sorte de ce modèle du 21e siècle et qu'on est aujourd'hui dans un monde extrêmement changeant, premièrement. Donc, on a besoin de nouveaux outils. D'ailleurs, ça a été une initiative d'une communauté open source. Hein, c'est Mozilla, la communauté Mozilla qui invente les badges en disant on se rencontre tous les ans, on se rend plein de services, on évolue ensemble, on développe des logiciels pour le bien commun. On a plein d'expertises, mais personne ne nous les reconnaît. Créons donc un système de reconnaissance décentralisé qui ne dépend donc d'aucune institution. Et tiens, on va s'inspirer des scouts, on va reprendre le principe, une image, des métadonnées, et puis on va mettre en place des différents types de badges, des badges qu'on peut obtenir parce que simplement on les demande, d'autres où il faut être endossé par des pairs avec multiples validations possibles, et donc tout un système de reconnaissance comme ça décentralisé. Et nous, ça nous permet de nous reconnaître entre nous et aussi en dehors, parce que c'est ça qui est intéressant, et c'est ça que c'est une piste aussi pour les entreprises, c'est de dire à travers les badges, c'est aussi la marque employeur qu'on développe, c'est aussi les pratiques de RSE qu'on développe. Récemment, j'étais avec Jérôme Grain-d'Orge à Lille de l'Université Polytechnique. Je l'ai interviewé sur un projet qu'il a gagné, son université a gagné autour du mécénat de compétences, autour d'une application qu'ils sont en train de développer, donc financée par la région Hauts-de-France. Et c'est cette idée, voilà, il nous faut des nouveaux outils agiles pour rendre visibles les compétences, les capacités, mais aussi les aspirations. Et il faut sortir du diplôme uniquement. Voilà. Et c'est pour ça que l'association Reconnaître a publié la déclaration pour l'égalité des reconnaissances l'année dernière. Une idée toute simple, c'est encore Serge, hein, bien sûr, vous l'aviez deviné, qui a dit, pour arrêter de dire, il y a les reconnaissances formelles, c'est les plus importantes, puis après, bon, c'est du non formel, ok, tu as suivi une formation, ou de l'informel, ok, c'est entre pairs. Non, on le voit bien, on le vit dans la... Dans notre quotidien, les reconnaissances, qu'elles soient, elles ont un effet positif. Et c'est même le moteur, d'ailleurs, pour beaucoup de personnes, le fait d'être reconnu. Notre présidente d'honneur, c'est Claire Hébert-Suffrin, des réseaux d'échange réciproque de savoir. Voilà, elle dit, on est tous sachants et ignorants. Et donc, avec les badges, ça nous oblige à penser différemment. Et ce qui est super intéressant, Stéphane, c'est que ceux qui nous rejoignent, petit à petit, ils ont tous un déclic qui arrive à un moment donné en disant, ça y est, j'ai compris en fait de quoi on parle. On parle de reconnaissance. Et les badges, ils sont venus nous interroger sur le fait qu'on a donné trop d'importance au diplôme. Le diplôme reste toujours un marqueur important, social, mais en même temps, tu le sais aussi bien que moi, le bac aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent, passe ton bac d'abord, et puis après, bon, le bac, ça ne vaut plus rien. Donc le bac aussi, lui, a une réputation, enfin le bac, le diplôme. et qui va dépendre de son contexte. Hein. Bien sûr, si tu as eu ton diplôme à telle école ou à telle école, déjà, ça peut avoir la même valeur. Donc oui, je suis d'accord
Est-ce que
avec
c'est pas
ce qui est
est-ce
dit.
que est-ce que c'est pas plutôt un changement de politique? C'est-à-dire qu'avant le diplôme, c'est une rentrée, c'est initiatique. Il y a ceux qui l'ont, ceux qui ne l'ont pas. Et donc, c'est forcément sélectif, méritocratie, etc. C'est le système de la République. Et là, on rentre dans une traçabilité. C'est-à-dire qu'on se forme tout au long de la vie. Donc, c'est une autre façon, plus anglo-saxonne peut-être, de penser la valeur qu'on donne aux gens. C'est deux modèles différents.
Et la différence, c'est que si on met en place ce type de politique de reconnaissance, on peut impliquer les personnes. C'est ça qui change. Parce qu'il y a encore beaucoup de méfiance dans les badges de je vais t'émettre un badge hein, si tu as bien fait les choses. Ça peut être, si, c'est pour ça que dans les travaux avec l'AFNOR, on insiste bien là-dessus, à la participation des personnes à la définition de ce qui doit être reconnu, à qui est-ce qui reconnaît. Donc les managers aussi. Peuvent avoir des badges. D'ailleurs, pendant les Jeux Olympiques, il y a eu ce badge, je ne sais pas si tu l'as vu, non seulement pour les volontaires, mais aussi pour managers inclusifs, c'est-à-dire ceux qui ont facilité l'accès de salariés en situation de handicap, par exemple, à des postes de leur entreprise. Eh bien, le comité JO 2024, avec tous ses partenaires, Orange, et puis je vais en oublier, donc Sodexo, voilà, ils ont créé ce badge qui venait sanctionner une formation, une sensibilisation des managers. Donc, c'est important si on veut mettre ça en place, en effet,
C'était la formation qui était sensibilisée ou c'était l'action qu'ils ont faite?
ils ont fait une formation, voilà, il y avait plusieurs choses, activités que devaient réaliser les managers pour obtenir ce badge, mais c'est un moyen après de valoriser le fait qu'ils étaient managers inclusifs.
Et
Et
ça,
ce
c'est
qui
très important
embête.
aujourd'hui dans le professional branding, d'être inclusif, RSE, enfin, suivant les angles éco-responsables, tout est bon. Et ça permet justement à chacun de choisir un peu son orientation professionnelle, le spectacle professionnel qu'il veut donner, pour justement en choisissant les badges qui sont les siens. Donc, la personne redevient propriétaire de son propre spectacle professionnel, professional branding.
Absolument. L'histoire de la traçabilité, c'est bien ça, c'est que les badges, il ne faut pas les voir seulement individuellement, mais on peut les connecter pour raconter un parcours professionnel, montrer ses centres d'intérêt. Et puis, nous, on a développé, c'est parti d'un projet en Normandie, un FEDER, autour de l'orientation. On a développé la notion de posture. Plutôt que de parler de niveau, comme c'était un peu notre réflexe, de dire, tu auras un badge de niveau 1, 2, 3. Rapidement, tu te dis, ah ouais, mais il a le 2, pas vraiment, il a le 3, on va lui mettre un badge de 2+, on se retrouve très embêté. On est parti sur les postures ou sur des niveaux de maturité qui sont beaucoup plus simples, qui sont j'explore, hein, je me lance dans une pratique, je me lance dans quelque chose et je suis reconnu pour ça, parce que c'est déjà
D'accord.
important d'avoir, par exemple, en entreprise, des salariés qui ont envie de se former, ou chez nous, des enseignants. Donc ça veut juste dire qu'on reconnaît que tu t'engages, voilà, ça ne dit rien de plus que toi, que ça, pardon, mais par contre le fait que tu aies ce badge, c'est aussi un signal que tu donnes aux autres de ta communauté, etc. Après, tu as le badge je pratique, le pratique avec de l'aide, avec de l'autonomie. En gros, plusieurs postures jusqu'à je suis capable de transmettre et je suis reconnu pour ma capacité à transmettre aux autres. Ça peut être tuteur en entreprise, par exemple, ou les badges autour des maîtres de stage. Donc, il y a beaucoup de choses à imaginer, mais il faut sortir de la logique que le badge, c'est un diplôme. Non, c'est un support pour rendre visible des reconnaissances et c'est tout.
Très bien. Tu parlais justement du FEDER. L'Europe est un agent qui promeut énormément l'open badge. Là, il vient de lancer justement avec l'Union des compétences le micro-crédentiel. Est-ce que c'est quelque chose en supplément ou ça va complètement dans ce que reconnaître propose?
Alors nous, on est, comment dire, on note ce mouvement autour des micro-certifications ou micro-qualifications. En effet, l'Europe a voulu un petit peu cadrer, hein, c'est-à-dire qu'elle a bien vu que ce mouvement se lançait, que les micro-certifications fleurissent, hein, il y en a des dizaines de milliers partout.
Exactement.
Donc l'Europe s'est dit, ce serait peut-être bien de mettre un petit cadre autour de tout ça. Il faut que, dans leur esprit, que les badges puissent circuler, puissent être reconnus. Donc, il faut les calé à des référentiels, hein, ou à des cadres de compétences existants. Donc nous, on n'a rien à dire contre ça. C'est juste que nous, on milite pour que les badges ne soient pas uniquement des micro-certifications. Sinon, fondamentalement, ça change pas, comment dire, ce que ça change pas les pratiques de reconnaissance. Pourquoi on s'appelle Reconnaître d'ailleurs et pas l'Association française des Open Badges? C'est parce que, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, dans nos principes, notre philosophie, c'est vraiment de faire participer la société, les individus à leur reconnaissance. Et dans le principe de micro-certification, on est quand même dans la validation, donc ça vient quand même d'une autorité. Donc on n'est pas contre qu'il y ait des micro-certifications, mais on veille à dire attention que les badges ne soient pas associés uniquement aux micro-certifications. Ce que je peux dire aussi, c'est que les Américains ont développé un gros moteur de recherche qui s'appelle Credential Engine, quelque chose comme ça, avec l'idée qu'on puisse communiquer la valeur de chaque badge. Ils ont donc un inventaire immense de badges qui permet de géolocaliser les badges là où on peut les obtenir et puis quels sont les. Ils travaillent beaucoup sur les badges qui ont qui donnent droit à un travail, enfin qui ont une visée d'employabilité, voilà, par quelles entreprises c'est reconnu. Ils travaillent aussi sur la question du Learning Employment Record, c'est pouvoir avoir un passeport où je peux avoir des traces comme nous, le passeport de compétences hein, qui devrait bientôt sortir, où on peut avoir une trace de toutes nos formations, mais aussi des emplois qu'on a occupés. Donc oui, ce travail que fait l'Europe est intéressant. Mais voilà, nous, on veille juste à dire attention, on avait un gros problème, enfin un gros problème, quelque chose qu'on voulait changer, c'était le diplôme. Si on le découpe en plein de petits diplômes, ça va faire beaucoup plus de problèmes.
Exactement. D'autant plus que c'est une nouvelle philosophie qui permet à chacun de construire sa propre valeur et surtout, c'est ça la nouveauté, de créer des écosystèmes privés. Donc c'est ça où on a donc quelque part un diplôme privé fait par des gens qui se disent bah, nous on se reconnaît autour de ça, on a notre écosystème. Et ça c'est assez extraordinaire parce que chaque communauté bah, est plutôt en avance ou plutôt en retard, mais en tout cas elle propose des choses et on voit si la société l'engrange ou pas.
Absolument. On voit bien d'ailleurs, puisque ça a été créé au sein d'une communauté de pratique, hein, on a parlé tout à l'heure Mozilla. Ça, c'est un bon moyen de structurer une communauté de pratique. Donc, il peut être, je pense souvent aux tiers-lieux. Les tiers-lieux à qui on commence à demander des comptes, ok, c'est super, mais qu'est-ce que les gens apprennent chez vous, etc. Qu'est-ce qu'on finance? Je sais qu'ils sont très intéressés. On travaille avec Tiers-lieux Éducation, par exemple, qui est membre de Reconnaître. Mais eux, ils n'ont pas encore ils ont besoin d'un outil open source facile à mettre en œuvre, justement, parce que mine de rien, c'est de l'accompagnement, c'est du temps. C'est aussi un frein hein, dans les entreprises. C'est pas nouveau. Hein, envoyer les salariés en formation, leur permettre d'évoluer et tout ça, c'est pas dans toutes les cultures, et notamment chez les petites entreprises. Hein. Donc, ta question était autour de ce que les communautés peuvent donner à voir avec les badges. C'est comme ça qu'on l'a bien identifié en disant ben, les badges permettent de structurer communauté de pratique. On a dit les rôles, savoir, savoir-faire, compétences émergentes, l'interdisciplinaire. On peut se libérer aussi d'un référentiel. Dans un badge, c'est une option quand même intéressante, hein, c'est-à-dire qu'on peut dire ce badge correspond à tel métier, telle aptitude, telle qualification. Ça peut être lié à ESCO, qui est le référentiel européen, ou au ROM chez nous, parce que ça peut être intéressant, voilà, en disant que ça correspond. Si on veut ensuite l'exploiter avec les machines, faire parler les données, ce qu'on ne sait pas encore bien faire. Et donc, je termine en disant que ça permet à une communauté de rendre visibles ses talents, ses compétences. Voilà. Et donc, quand les personnes sortent de cette communauté avec des badges, eh bien, elles rendent visibles les compétences de leur communauté. C'est aussi rendre visibles les compétences de son organisation que de badger des formateurs, des formatrices, ou ses pratiques. C'est ce qu'on fait avec le label CFA en Normandie, par exemple.
Exactement. Et pour les institutions, tu parlais des tiers-lieux, ben finalement, c'est une façon aussi d'être, de faire vivre sa marque et de lui donner une visibilité en disant voilà ce qu'on fait nous chez nous. Et donc, après notre spécificité, on peut la critiquer, mais en tout cas, on présente ce qu'on fait. Et donc, ça donne une visibilité pour tout le monde. Et des petites structures peuvent très bien gagner en visibilité. S'ils ont choisi un bon angle, ben finalement, ils seront repris dans leur badge. Ça étoffera leur écosystème. Et dans ces cas-là, ils pourront évangéliser, faire vivre leur
Oui,
marque.
je pense que ce qui est intéressant aussi pour tous les organismes de formation qui travaillent pour leur branche ou sur leur territoire, rendre visibles les liens qu'ils ont avec leurs entreprises, travailler la relation tripartite par exemple aussi. Il y a des badges qu'on peut co-construire avec les entreprises partenaires. Ça veut dire qu'on va voir sur le badge que ce badge, si tu l'as, il est déjà reconnu par telle filière ou telle OPCO. On travaille avec des OPCO aussi, hein, avec reconnaître au sein du comité national des acteurs. Et donc, cette idée, voilà, de rendre visible des partenariats, montrer que ce badge est déjà reconnu avant qu'on l'obtienne. C'est ça qu'on essaye de vraiment diffuser dans la culture. Et puis, toujours dans l'idée de le différencier du diplôme, dire qu'un badge peut avoir une valeur locale, c'est pas grave, ou une valeur au sein d'une filière, d'une branche, d'un territoire, d'un bassin d'emploi. C'est pas grave qu'un badge ait une valeur en Normandie et pas en Bretagne, c'est pas grave.
Et ça lui donne tout de même une valeur. C'est
Oui,
ça qui est important et
tout à
reconnu
fait.
en tant que tel. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant. J'avais une question. Alors il existe le forum des Open Badges, pardon. Qu'est-ce que c'est?
Alors, le forum des Open Badges, on l'a créé il y a 3 ans parce que la conférence EPIC, que Serge avait rapatriée en France en 2018, on l'avait proposé au Learning Planet Institute, donc au CRI à l'époque. Ensuite, on est allé à Lille. On est allé. En fait, il y avait de plus en plus de Français qui étaient là et beaucoup moins académiques, hein, parce qu'on avait de l'éducation populaire, l'enseignement agricole. Parce que les badgeons, les collectifs, ça avait voilà, fait des petits. Donc, on avait un public qui avait changé et du coup, le monde académique un petit peu international, voilà, s'y retrouvait plus trop. Il y avait beaucoup trop de Français. Alors, ils n'ont pas dit ça, mais c'était plus dans l'esprit académique. Donc, c'est pendant un CA de reconnaître que quelqu'un a dit de chez nous, on devrait organiser notre forum beaucoup plus axé sur la pratique. Pas dans les présentations, dans la pratique. On en a fait un premier à Caen. On a fait 80 personnes. Ensuite, on est allé à 7 en 2024. On a fait 110 et là, on a fait 150 personnes à Vannes. Et ce qui fait la différence avec la conférence internationale EPIC, c'est qu'on est dans la pratique. On est entre praticiens.
Très
On
bien.
fait beaucoup d'ateliers, beaucoup de off, beaucoup d'ateliers, beaucoup de réseaux. Et voilà, l'année prochaine, d'ailleurs, notez, c'est du 2 au 4 juin à Besançon. C'est
D'accord.
vraiment là qu'on peut aller, voilà, On n'est pas à regarder des présentations qui sont par ailleurs très intéressantes, hein, mais on est dans le concret. Ok, j'ai compris. Maintenant, je veux tester. Tiens, moi, j'ai ça comme idée. Qu'est-ce qu'il y a déjà un autre projet pour reconnaître l'engagement, le handicap, comment on fait avec les jeunes, etc. Donc, c'est vraiment ces moments. Le forum, c'est vraiment pour ça. Et la conférence internationale. J'en profite peut-être, Stéphane, du 21 au 23 octobre à Paris.
Bien
Hein,
sûr.
EPIC.
Donc déjà, les premiers ont noté le forum. C'est très intéressant parce qu'on est entre praticiens. On fait, on ne dit pas qu'il faut faire. Et donc ça veut dire qu'on part du learning by doing, comme on dit. Mais c'est-à-dire qu'on parle de l'action et on voit comment ça marche. Et il y a de l'entraide, il y a une vraie belle solidarité. Donc n'hésitez pas à y aller ou envoyer quelqu'un de vos équipes, etc. Mais pour comprendre comment ça marche véritablement. Et le deuxième grand moment fort.
La conférence internationale EPIC, on est là dans de la politique, hein, de formation. On échange avec l'Afrique du Sud, l'Australie, les États-Unis sur les questions de reconnaissance. C'est là où on publie un peu nos grands textes. Hein. En 2016, ça a été la déclaration de Bologne pour une reconnaissance ouverte. On a eu la charte de la reconnaissance ouverte, la déclaration pour l'égalité des reconnaissances. Et cette année, ce sera le manifeste. Parce que toujours Serge Ravet, il a toujours un truc à publier. Et le manifeste, ça va un petit peu plus loin. C'est pour vraiment dire, OK, maintenant, il faut y aller. Il faut y aller. Et puis, c'est vraiment enrichissant parce que, ben, on rencontre des personnes d'autres cultures, d'autres politiques. Ils n'ont pas tous les mêmes contextes. Et donc, il y a aussi beaucoup d'échanges autour des technologies. C'est
Il faut être
transcrit.
forcément anglophone.
C'est traduit en direct dans l'amphi A, voilà, dans le grand amphi, c'est traduit en direct.
Très bien. Donc,
Mais sinon, on boit un petit coup et après tout le monde parle la même langue.
C'est vrai que
Hein.
c'est une question d'organisation, tout ça. Donc, très, très bien. Donc, mais c'est passionnant. Alors, rappelle les dates.
21, 23 octobre à Paris. Et vous pouvez aller sur le site epic.openrecognition.org.
Impeccable. Comme ça, tout le monde va pouvoir y aller. On arrive à la fin de l'émission. C'était passionnant. C'était passionnant
C'était
comme
fun.
enregistrement. Si on t'a apprécié, comment est-ce qu'on fait pour te joindre?
Le plus simple, c'est sur... Pardon, attends. Le plus simple, c'est sur LinkedIn. Je n'ai pas de carte de visite. Philippe Petitqueux, avec un nom comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Vous ne pouvez pas vous tromper. Je crois qu'on est deux.
Bon, bah, c'est déjà bien, quoi.
Voilà.
Voilà. Donc, bah, alors n'hésitez pas à poser toutes ces questions et puis après, inscrivez-vous dans une très très belle association. Regardez ce qu'ils font. Si vous avez quelques doutes ou vous évitez l'engagement, regardez d'abord ce qu'ils font. Vous allez voir, c'est passionnant, que ce soit à la fois sur la pratique, sur la réflexion et surtout de le faire pas tout seul. C'est-à-dire de retrouver des alliés pour avoir une véritable reconnaissance nationale et internationale. Pour les entreprises, c'est passionnant. Vous apercevez que les prix sont très modestes. La clé, c'est surtout le fait de comprendre et d'avoir l'envie de le faire. Et ça, il faut aller voir avec des gens qui ont, comme Philippe Petitqueux, qui ont cette passion à transmettre et qui vous aidera dans les meilleures conditions possibles. Il n'est pas tout seul, puisque vous avez noté qu'il y a Serge Ravet comme président, qu'on a déjà entendu plusieurs fois sur l'émission. Et puis aussi, il y en a plein d'autres qui sont passionnants. Je vous invite à tous les écouter en la matière. Merci Philippe. Philippe
Peut-être un
Petitqueux.
tout petit
Oui,
dernier mot, parce
très
que
bien.
j'ai quand même, tu as vu mon fond d'écran, il y a écrit Radio Badge. Et toi, Stéphane, tu es chez Format Radio. Sache que je suis
Absolument.
un journaliste débutant, qu'on a créé une radio avec
Ah, très bien.
mon
Oui.
comparse, Pierre Souillard, qui s'appelle Radio Badge. Donc là aussi, c'est un moyen pour nos auditeurs, sans faire concurrence du tout à ta radio, car nous avons très peu,
On est très
pour l'instant,
open
on est
dessus.
très une niche, hein, pour l'instant, Radio Badge, mais... on a notre programme, on a notre émission, on a des capsules et tout ça. Radiobadge.openrecognition.org. N'hésitez pas à écouter, on a de la
Tu sors
musique.
tous les combien?
On
C'est sur les
a
plateformes
un
de
site
podcast.
radio et on
Ah,
a un
sur un
site
site.
radio, voilà, on fait du podcast.
Tu les mets sur iTunes, sur des choses comme ça, Spotify.
On met un petit peu sur Spotify, mais pour l'instant, on reste sur notre radio et on publie nos podcasts sur LinkedIn. Mais on a une radio qui tourne 24-24. Voilà.
Ah, très bien,
Avec une
impeccable.
programmation. Voilà. Mon comparse Pierre Souillard, c'est un ancien pro de la radio, donc il fait ça très bien. Pour l'instant, on est deux, mais on a des auditeurs et des membres de reconnaître qui nous produisent aussi des contenus.
Ben, très
Voilà,
très
on a
bien.
une émission mensuelle. Merci
Voilà.
Stéphane, en tout cas.
Donc, mais en tout cas, c'était passionnant. Et si tu veux que je vienne, parce que je le fais souvent sur les radios qui émergent, pourquoi est-ce qu'on a créé Format Radio? C'est parce qu'on disait à tout le monde de le faire, parce que c'était hyper intéressant pour plein de raisons, et ça permet de créer une communauté, etc. Et les gens ont dit, bah, si c'est si facile que ça, fais-le. Et donc, on a demandé au bureau de la FEN, ils ont dit que ça les intéressait. Et donc, quand ils ont vu qu'on l'a fait, derrière, d'autres grosses associations se sont dit, si la FEN le fait, nous aussi. Et donc, notre mission a été résolue, c'est-à-dire c'était fait pour que les gens adoptent ce modèle qui est vraiment intéressant comme outil. Donc, bravo sur Radio Badge. Et si on peut t'aider, ou on a une petite communauté qui tourne assez bien, donc si avec plaisir on viendra faire des choses chez toi, en tout cas, bravo d'avoir eu le courage de se lancer. C'est bien beau c'est une belle aventure que de créer régulièrement une relation avec les gens qui écoutent. Et comme tu as du talent, j'ai aucun doute que ça marchera.
Merci beaucoup Stéphane.
Merci à tous. Voilà, bah voilà, ça c'est des professionnels. Bravo. Ça, c'est ce qui nous manque à Format Radio. Merci beaucoup. Philippe Petitqueux, au revoir à tous, bye bye.